Info matin, Nicolas Legrand.
Les membres du 18e gouvernement élus ce matin au Congrès. La séance solennelle débutera à 9h. Ensuite, ces membres du 18e gouvernement se réuniront dans la foulée pour désigner le président. L'actualité économique et Alexandre Rousseau, nouveau président de KNS. Il succède à Neil Meadows qui quitte ses fonctions après 3 années à la tête de l'usine du Nord. Alexandre Rousseau connaît parfaitement l'entreprise pour y avoir passé 15 ans. Emmanuel Macron face aux diplomates français. Dans son discours, il a notamment évoqué, je cite, les ingérences inacceptables de l'Azerbaïdjan dans les Outre-mer et en Nouvelle-Calédonie en particulier. Pendant ce temps, la Marine Le Pen joue son rôle d'opposante au gouvernement. La chef de file des députés RN poursuit son séjour à Mayotte et critique l'action de l'État. Le sport, les Français à la peine en tennis, ils ont tous perdu hier à Melbourne. Richard Gasquet, 38 ans, fait notamment ses adieux au Grand Chelem australien. La météo en Nouvelle-Calédonie, sur la côte ouest, le soleil domine. Aujourd'hui, quelques cumulus sur l'extrême sud et aux Loyautés, débordements nuageux également sur la côte est. Quant aux températures, peu d'évolution au niveau du mercure, il reste proche des valeurs de saison et s'échelonne de 27 à 32 degrés.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Elle a une actualité sur le territoire.
Oui, puisque c'est ce matin que les élus du Congrès se retrouvent pour élire les membres du 18e gouvernement. Je rappelle que le précédent est tombé le 24 décembre lorsque le membre calédonien ensemble du gouvernement, Jérémy Katidjo-Monnier, a démissionné, ainsi que tous les suivants de la liste. C'est donc ce matin à 9h que les élus du Congrès se retrouvent pour élire les 11 membres du nouvel exécutif. Alors au-delà de l'aspect politique pour le renouvellement des membres du gouvernement, cette élection compte aussi une partie un peu plus mathématique, Léo Fichou.
En fait, ce matin, les élus du Congrès ne vont pas voter pour telle ou telle personnalité, mais pour des listes. Et c'est en fonction du nombre de voix que recueilleront chacune des 4 listes en présence que l'on saura qui sera élu au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Cette méthode d'élection porte le nom de scrutin proportionnel à la plus forte moyenne. À l'issue du scrutin et après avoir déterminé le quotient électoral qui correspond au nombre total de voix possibles, soit 54, puisqu'il y a 54 élus au Congrès, divisé par le nombre de membres du gouvernement, un nombre qui a été fixé à 11. Les services du Congrès calculeront le nombre de membres du gouvernement revenant à chacune des listes. Un calcul qui se fait en plusieurs temps jusqu'à ce que les 11 postes disponibles soient pourvus. Si la logique politique du vote est respectée, la logique mathématique du calcul devrait donc donner 4 sièges pour la liste Les Loyalistes Rassemblement, Alcide Ponga, Christopher Gigès, Isabelle Chamorro et Thierry Santa. 3 sièges à la liste UC, FLNKS et Nationaliste, Michael Forest, Samuel Népéoun et Gilbert Thuénon. 2 sièges à la liste UNI, Claude Gambet et Adolphe Digoué. Et puis 2 sièges à la liste Calédonie Ensemble, Éveil Océanien, Philippe Dunoyer et Pételo Sao.
Alors, une fois élus, les membres du gouvernement se réuniront dans la foulée pour élire le président. Si l'élection des membres du gouvernement ne devrait pas réserver de surprises, les choses devraient être un peu plus compliquées pour savoir qui présidera le prochain exécutif, Jean-François Bodin.
Car la collégialité commence non pas une fois que le gouvernement est élu, mais une fois que son président et son vice-président sont élus et que les secteurs ont été attribués à chaque membre. Il ne peut pas y avoir de collégialité tant que le président n'est pas élu, car aucun candidat ne dispose de la majorité nécessaire et aucun ne semble s'imposer naturellement, et qu'il faudra des alliances et des désistements pour que le vote aboutisse. On se souvient qu'en raison des désaccords entre indépendantistes, il avait fallu 5 mois en 2021 pour que les membres du 17e gouvernement arrivent à élire leur président. Un tel délai apparaît aujourd'hui évidemment impossible au regard des enjeux créés par les émeutes du 13 mai, qu'ils soient budgétaires ou liés aux discussions sur l'avenir. Surtout que la durée de vie de ce gouvernement, si les élections provinciales ont bien lieu comme prévu en novembre 2025, ne sera que de quelques mois. 3 candidats sont déclarés ou pressentis pour le poste. Philippe Dunoyer, qui s'est déclaré pour Calédonie Ensemble, Alcide Ponga est pressenti pour la liste Rassemblement et Loyaliste, et Samuel Népéoun pour la liste UC. Le Palika, avec 2 membres, ne devrait pas présenter de candidat. Le reste dépendra des discussions entre les groupes politiques, entamées dès l'annonce de la chute du précédent gouvernement et qui se sont intensifiées jusqu'à aujourd'hui. En fait, il y a plus de questions que de réponses. Philippe Dunoyer, qui ne représente que lui-même puisque son colistier Pételo Sao représente l'éveil océanien, maintiendra-t-il sa candidature? Et si oui, combien de temps? Et s'il retire sa candidature, votera-t-il pour le candidat indépendantiste ou loyaliste? Philippe Dunoyer et Pételo Sao voteront-ils pour le même candidat ou leur voix pourrait-elle aller sur des candidats différents? Le Palika votera-t-il pour un candidat UC dans le contexte actuel? Surtout si ce candidat est soutenu par les membres Calédonie Ensemble et Éveil Océanien du gouvernement avec lesquels les relations sont très mauvaises. Bref, il existe sans doute plus de cas de figure pour cette élection du président que de membres du gouvernement.
Merci Jean-François Bodin. Un rendez-vous sur notre antenne maintenant, alors qu'il n'y a pas de gouvernement de plein exercice et que les urgences budgétaires sont réelles. Que pensent les acteurs du monde économique? Quelles sont leurs attentes? Ce sont des questions que nous poserons à Mim Sidélé, la présidente du MEDEF, qui sera tout à l'heure notre invitée à 7h30.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. La composition du nouveau gouvernement élu aujourd'hui va-t-elle faciliter le travail institutionnel? Si vous pensez qu'elle va faciliter le travail institutionnel, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Voici maintenant la réponse à la question d'hier et elle a fait l'unanimité parmi les auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS. Ils se déclarent tous favorables au maintien des restrictions sur le territoire. Aucun d'entre eux ne souhaite qu'elles soient levées. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. En bref, deux jours après le meurtre d'une femme par arme blanche à la tribu Dounia Ayaté, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie déplore par voie de communiqué ce drame qui montre une fois de plus que les violences conjugales demeurent un fléau qu'il faut combattre avec la plus grande fermeté. Avant d'ajouter qu'il devient impératif que chacun adopte un comportement responsable et fasse preuve de modération dans sa consommation d'alcool. Le gouvernement condamne ces actes de violence odieux et appelle toutes les institutions, forces de l'ordre, autorités coutumières et associations à unir leurs forces pour que ces faits ne se reproduisent plus. Le gouvernement tient également à présenter ses sincères condoléances et à apporter tout son soutien à la famille, aux proches et au clan de la victime. Fin de citation. L'actualité économique maintenant est du changement à la tête de Cognambo-Nickel. Nils Mido a quitté son poste de président de l'entreprise hier. Une annonce faite par voie de communiqué, Léo Fichou.
Et Nils Mido quitte effectivement son poste après un mandat de presque 3 ans à la tête de KNS. Il est remplacé par Alexandre Rousseau qui était jusque-là vice-président du site industriel. Alexandre Rousseau connaît bien l'entreprise puisqu'il y a exercé plusieurs postes depuis plus de 15 ans. Il a occupé des postes clés dans les domaines des ressources humaines, des affaires externes, de la communication et de la gestion du site industriel. Écoutez Alexandre Rousseau.
C'est vrai que le contexte est particulier. Je prends ce rôle avec beaucoup de responsabilités. On a encore de grands défis devant nous. Et donc les équipes sont toujours à pied d'œuvre et nous allons rester concentrés sur nos objectifs. C'est soutenir nos actionnaires dans la recherche d'un repreneur. Les discussions suivent leur cours dans le process qui a été mis en place et pourra avoir des réponses, j'espère, dans le courant d'année. C'est également conserver notre site en état de pouvoir offrir une nouvelle opportunité et se conformer à la réglementation.
Alexandre Rousseau, joint au téléphone par Jean-François Bodin, notait qu'à l'heure de son départ, Nils Mido a par ailleurs tenu à exprimer, je cite, sa profonde gratitude à toutes les équipes pour leur résilience et la force collective dont elles ont fait preuve. Fin de citation.
À Radio Rythme Bleu, il est 6h38.
Et enfin, un mot d'actualité religieuse. Une quinzaine de jeunes prêtres francophones sont rassemblés à Wallis. Depuis samedi, ils participent à un séjour de 3 semaines pour renouveler leurs vœux. Les prêtres ont été répartis sur les 3 grandes paroisses à Wallis, Moua, Aake et Ifo. Lors de ces 3 semaines de retraite et d'échange, les jeunes prêtres auront du temps pour renouveler leurs vœux et se poser pour relire les premières années de leur sacerdoce. 3 prêtres calédoniens sont à Wallis, les pères Ken Boirat, Jacques Suta et Michel Toekidjo, qui nous expliquent l'importance de ce rassemblement.
Tous les 4 ans, il y a un diocèse qui organise l'accueil du renouveau sacerdotal. Ça concerne les prêtres de moins de 10 ans. De chaque diocèse francophone, c'est-à-dire Wallis, Tahiti, Calédonie et Vanuatu. On se retrouve accueillis par le diocèse de Wallis pour partager un temps spirituel, mais en même temps un temps d'échange et de partage avec les confrères prêtres des autres diocèses. Voilà, simplement, c'est un moment de grâce parce que c'est des rencontres et puis en même temps, il y a du spirituel, mais il y a de la fraternité et puis l'échange de nos ministères dans notre façon de faire dans notre église.
Et les journées de la semaine seront rythmées notamment par des sessions de travail. Le week-end, ils seront répartis dans les familles pour être au plus près de la population. 3 semaines de retraite spirituelle animées par Monseigneur Pascal Roland, l'évêque de Béléard. Il est 6h passé de 40 minutes. Merci d'être avec nous. Après la publicité, on va voir notamment l'actualité internationale puisqu'Emmanuel Macron s'est exprimé face aux ambassadeurs français. Il a notamment évoqué les ingérences, je cite, « inacceptables » de l'Azerbaïdjan dans les Outre-mer.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
des conseils concernant les placements, l'épargne, les SCPI ou encore la retraite? Caplif, votre expert calédonien en gestion de patrimoine, vous accompagne avec des solutions personnalisées. Caplif, depuis 35 ans à vos côtés. Et ce n'est que le début. Contactez Caplif au 28 30 00. RIAS 170 052, ORIAS 13103.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, 6h-8h, Nicolas Legrand.
Emmanuel Macron face aux diplomates français. Il les a réunis à l'Élysée à l'occasion de la traditionnelle conférence des ambassadeurs. Beaucoup de dossiers sur la table, l'Ukraine bien sûr, le Proche et le Moyen-Orient également, le Mercosur, l'Afrique. Et le chef de l'État s'est montré très offensif, en particulier sur la relation avec les États-Unis. Arthur Delaborde pour Europe 1.
Emmanuel Macron dit assumer une position de prudence relative à l'égard de Washington et se veut rassurant en rappelant qu'il a su travailler avec le président Trump entre 2016 et 2020. Mais très vite, le chef de l'État français décoche une première flèche à l'encontre de la future administration américaine en ciblant directement l'un de ses piliers, le milliardaire Elon Musk.
Si on nous avait dit que le propriétaire d'un des plus grands réseaux sociaux du monde soutiendrait une nouvelle internationale réactionnaire et interviendrait directement dans les élections, y compris en Allemagne, qui l'aurait imaginé?
Plus largement, Emmanuel Macron déplore le désordre du monde et l'activité de puissance de déstabilisation, par exemple sur le continent africain où plusieurs pays ont rompu avec Paris.
Non, la France n'est pas en recul en Afrique. Elle est simplement lucide, elle se réorganise.
Le président français durcit aussi le ton contre l'Algérie et le traitement réservé à l'écrivain Boualem Sansal depuis son arrestation à la mi-novembre à Alger.
L'Algérie que nous aimons tant entre dans une histoire qui la déshonore, a empêché un homme gravement malade de se soigner.
Emmanuel Macron appelle ainsi le gouvernement algérien à libérer immédiatement Boualem Sansal.
Et au cours de cette prise de parole d'1h40 environ, Emmanuel Macron a aussi évoqué les ingérences étrangères en France et notamment le rôle de l'Azerbaïdjan qui a voulu déstabiliser les Outre-mer. Écoutez.
Désordre des démocraties menacées par la remise en cause de leurs promesses de prospérité, d'ascension sociale, de partage du progrès et directement attaquées par des puissances de déstabilisation. Il y a quelques semaines à peine, la Roumanie a dû annuler une élection présidentielle en raison d'ingérences et de manipulations électorales clairement attribuées à la Russie. Qui l'aurait imaginé il y a 10 ans à peine? La France a été elle-même attaquée par des ingérences inacceptables dans la plupart de ses territoires ultramarins, et tout particulièrement en Nouvelle-Calédonie ces derniers mois, par l'Azerbaïdjan qui pensait là régler ses propres incompréhensions du fait que nous défendons le droit international et l'Arménie. Qui l'aurait imaginé?
Et après avoir évoqué les désordres du monde, Emmanuel Macron a livré sa feuille de route et il a insisté sur la place des Outre-mer. Il a cité la plupart des territoires d'ailleurs et évidemment la Nouvelle-Calédonie.
Cet agenda de prospérité, nous devons le penser également avec nos Outre-mer. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, mais nous n'avons pas réussi collectivement, et c'est une question d'organisation, à remettre véritablement la France archipélagique au cœur de notre stratégie internationale. La France est un archipel. On le regarde trop rarement comme ça en disant que ce n'est qu'un hexagone. Nos territoires ultramarins nous permettent d'être au cœur de tous les continents. Et comme nous sommes en même temps un grand pays jacobin, et que tous nos territoires ultramarins ont ce jacobinisme en eux, chacun avec leur histoire, ils regardent toujours Paris. Ce n'est pas le meilleur moyen toujours pour avoir une stratégie de croissance et optimiser nos potentiels. Il faut avoir une stratégie régionale pour tous nos territoires ultramarins. Alors, on s'est réancré ces dernières années dans les formats régionaux. On s'est battu avec l'unité du Pacifique Sud, le FIP. Il faut maintenant les faire vivre, mais avoir des stratégies de recherche, de croissance, de potentiel dans tous les domaines d'activité avec les pays de la sous-région. Réussir à avoir une stratégie en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, là aussi avec toute la sous-région, c'est évidemment ce qu'on est en train de bâtir et qu'il faut accélérer.
Emmanuel Macron a conclu son discours en remerciant les ambassadeurs pour le combat qu'ils mènent. Le chef de l'État a également remercié les envoyés spéciaux ainsi que les membres du gouvernement qui, je cite, ont aussi à cœur de bâtir cet agenda. À l'étranger, en bref, Justin Trudeau a démissionné. Le Premier ministre canadien est empêtré dans une crise politique depuis plusieurs mois maintenant. Il reste toutefois en place jusqu'à ce que son parti lui trouve un successeur. Il est 6h45, on marque une nouvelle pause dans ce journal. On parlait à l'instant de la place des Outre-mer dans la stratégie française. Eh bien Marine Le Pen, elle, continue son tour de Mayotte.
RRB, 6h-8h, Nicolas Legrand.
Ah, ces assurances. J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Tous les dimanches de 5h à midi, c'est la foire aux affaires au drive-in du Pont des Français. Vide-grenier, brocante, plantes vertes, places à emporter et beaucoup d'autres bonnes surprises à ne pas rater. Louez un stand au 24 39 01 au 174 rue Auguste Bénébig à Magenta. Entrée par le showroom Mazda.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Info Matin, on retrouve Nicolas Legrand.
Et je le disais donc, Marine Le Pen a fait le tour de Mayotte la nuit dernière. La chef de file des députés Rassemblement National a constaté les dégâts, mais aussi apporté son soutien aux Mahorais touchés par le cyclone Chido. Et surtout, elle a pu constater sa cote de popularité sur place, Alexandre Chauveau.
Oui, avec des images saisissantes de villages en partie ou totalement détruits et où l'arrivée de Marine Le Pen suffit à provoquer des cris de joie chez les habitants. Les Mahoraises, notamment, vêtues de leur tenue traditionnelle, l'embrassent, la tutoient et la surnomment affectueusement Tati. Alors ce n'est pas l'objet du déplacement, évidemment. Marine Le Pen constate, comme tout le monde, la violence du cyclone. Elle échange avec les habitants et dans son rôle d'opposante numéro 1 au gouvernement, n'oublie pas de pointer du doigt les failles éventuelles dans la reconstruction.
Ils ont l'impression qu'on parle beaucoup d'aide, mais qu'en réalité, eux n'ont vu personne, pour la plupart, n'ont toujours pas d'électricité, n'avaient pas d'eau pour certains jusqu'à très récemment. Moi, je viens juste pour voir si le discours que j'ai entendu correspond à la réalité que je constate. Bon, la réponse est non.
Voilà Marine Le Pen qui est, disons-le, assez impuissante face aux dégâts, mais qui s'attelle à apparaître comme la porte-parole des Mahorais, avec à la fois un attachement sincère à l'île, mais aussi un intérêt politique, puisqu'au-delà de Mayotte, les Outre-mer au sens large représentent 4% du corps électoral.
Alexandre Chauveau, l'envoyé spécial d'Europe 1 à Mayotte. L'actualité judiciaire est l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, devant la justice. Il comparaît dans l'affaire dite du financement libyen présumé pour sa campagne présidentielle de 2007. Un dossier qui repose essentiellement sur les déclarations de l'homme d'affaires sulfureux Ziad Takieddine. Nicolas Sarkozy comparaît donc devant la 32e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris, où la question de la compétence de ce tribunal est au cœur des débats. Jacques Serret pour Europe 1.
Oui, c'est une question soulevée par la défense. N'est-ce pas à la Cour de justice de la République de juger cette affaire plutôt qu'au tribunal correctionnel ? Claude Guéant, Brice Hortefeux, Éric Woerth et Nicolas Sarkozy assistent au débat. Ils sont là, chacun assis sur les strapontins du prétoire. L'avocat de Brice Hortefeux s'avance à la barre. Maître Jean-Yves Dupeufix, les procureurs du PNF, le parquet national financier, vous reprochez à mon client d'avoir commis un délit au cours d'un voyage officiel lorsqu'il était ministre, lance-t-il. Puis il se tourne vers la présidente du tribunal. Je vous demande de prononcer votre incompétence et de renvoyer ce procès devant la Cour de justice de la République. Ce renvoi, l'ancien président le souhaite aussi. J'ai le sentiment que le PNF veut faire de Nicolas Sarkozy son domaine réservé, pointe son avocat, maître Jean-Michel Darrois, d'une voix calme. Mais le procureur du PNF, Quentin Dandois, s'emporte. Vous insinuez une sorte d'association des magistrats, interroge-t-il. Vous voulez être jugé comme tout le monde, monsieur Sarkozy. L'ironie n'a pas sa place, l'interrompt la présidente du tribunal. Nicolas Sarkozy bouillonne et ne peut se retenir. C'est effrayant, ça me choque. Si le tribunal se dit compétent, ce procès aura lieu jusqu'au mois d'avril.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Justice toujours et ce procès renvoyé pour Imad Tintin. Il est l'un des trois influenceurs franco-algériens arrêtés pour ses prises de position sur les réseaux sociaux. Tous appelaient à la haine et aux attentats. Il sera finalement jugé le 5 mars prochain. En attendant, il reste en détention provisoire. Mais par ailleurs, trois autres influenceurs franco-algériens sont désormais dans le viseur des autorités et ça se passe dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Geoffrey Branger pour Europe 1.
Oui, il s'agit de trois influenceurs franco-algériens vivant à Lyon et dans sa proche banlieue. Selon un communiqué de la préfète d'Auvergne-Rhône-Alpes, ils auraient appelé à la haine ou à la violence dans des vidéos publiées sur TikTok. Leurs profils ont été signalés aux autorités. Le premier, connu sous le nom d'Abdeslam Bazouka sur les réseaux, a publié le 10 décembre dernier une vidéo dans laquelle il menace de mort les opposants au régime algérien vivant en France. Il dit notamment « Je jure par Allah que notre couteau tranchera les traîtres à la nation ou encore nous le peuple on va vous égorger ». Le second, Laxas06, explique lui sur ses réseaux que les Algériens vivant en France sont des soldats dormants, prêts à devenir martyrs pour défendre l'Algérie. Enfin, la troisième, Sophia Boulenman, suivie par des centaines de milliers de personnes, se voit notamment reprocher un live TikTok datant de septembre dernier. Elle y insulte copieusement en arabe une autre femme, lui lançant par exemple « Nique ta mère, toi et ta France ».
Et dans ce contexte, Bruno Retailleau alerte les préfets. Le ministre de l'Intérieur les appelle à renforcer la sécurité des grands rassemblements. Un message envoyé à la veille de la commémoration des 10 ans de l'attentat de Charlie Hebdo. J'ajoute par ailleurs que des tags représentant des étoiles de David ont été découverts à proximité de l'hypercachère qui avait été le lieu d'une prise d'otage et où 4 personnes avaient perdu la vie en 2015. L'actualité sociale, les agriculteurs ont tenté de gagner Paris, mais les forces de l'ordre ont empêché la progression des membres de la coordination rurale qui souhaitaient bloquer la capitale. La préfecture de police de Paris avait en effet interdit les rassemblements non déclarés dans un large périmètre du centre de Paris, incluant notamment Matignon et le ministère de l'Agriculture. La préfecture du Val-de-Marne en avait fait de même autour du marché de Rungis et sur l'autoroute A6. Forcément, une déception pour Martin, un céréalier de Seine-et-Marne.
Venir à Paris, c'est aussi la vitrine, c'est pour être vu. Quand on est au pied de la Tour Eiffel, il y a un symbole. On n'est pas des casseurs, on sait ce que c'est que le prix du matériel, donc c'est ce que ça vaut. Quoi. Il y a quelqu'un derrière qui paye l'addition. On n'est pas considéré, c'est tout. Voilà, ça veut dire qu'on nous a déjà presque enterrés.
En revanche, une opération escargot a été menée sur la Nationale 7 près de Lyon. J'ajoute que le Premier ministre recevra tous les syndicats agricoles, ce sera lundi prochain. Avant cela, François Bayrou recevra les partenaires sociaux la nuit prochaine, une manière d'entendre leurs demandes en vue d'établir le budget 2025 de la France. Mais depuis hier soir pour nous, le ministre de l'Économie et des Finances, Éric Lombard et Amélie de Montchalin ont reçu les groupes parlementaires et notamment les socialistes. L'objectif là aussi est de trouver un accord de non-censure, Alexis de La Fontaine.
Oui, 2 heures de rendez-vous et à la sortie, une franche poignée de main entre Olivier Faure et Éric Lombard. Les deux hommes, proches depuis des années, promettent de se revoir et de continuer à travailler ensemble. Pour le ministre de l'Économie, la solution viendra certainement de la gauche plutôt que du Rassemblement National. Alors, pour tenter d'aboutir à un accord de non-censure, le patron des sénateurs socialistes, Patrick Kanner, rapporte une avancée sur la question des retraites.
Il y a eu une proposition de modification, d'évolution de la réforme de la retraite. La ministre en charge, Madame de Montchalin, n'a pas été dans le détail, mais manifestement, la pression que nous avons mise depuis le début sur ce dossier fait bouger les lignes au sein du gouvernement, et cela est tout à fait positif.
Pour l'instant, Bercy refuse de donner des précisions sur cette possible évolution de la réforme des retraites. Nous attendons de rencontrer tous les groupes parlementaires, répond l'entourage d'Amélie de Montchalin. Mais au Parti Socialiste, de nombreux députés se méfient de ces promesses en l'air et restent encore très pessimistes à l'idée d'un accord de non-censure.
Alexis de La Fontaine pour Europe 1. Il est 6h53. Merci d'écouter Radio Rythme Bleu. On va marquer une dernière pause dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive et notamment les qualifications à l'Open d'Australie de tennis. Et ça s'est très mal passé pour les Français.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Fondation d'entreprise BCI, nous croyons en ta réussite. Et pour que tu puisses te consacrer pleinement à tes études supérieures en métropole, nous t'accompagnons avec un programme d'excellence. Paiement de ton billet d'avion aller-retour, prime d'installation de 150 000 francs, prise en charge de tes frais d'inscription au concours et bien d'autres avantages pour t'aider à atteindre tes objectifs. Pour candidater, rends-toi sur notre site internet www.fondationbci.nc. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 janvier 2025. Fondation d'entreprise BCI, diversité, excellence, développement.
Vendredi 17 janvier, Wonder Beach, retrouvez toute la magie du groupe Pink Floyd le temps d'une soirée unique. Another Pink Experience met un point d'honneur à interpréter fidèlement les immenses compositions telles que Dark Side of the Moon, Comfortably Numb, Wish You Were There, The Wall et bien d'autres encore. 8 musiciens, chanteurs et chanteuses pour offrir aux fans inconditionnels de Pink Floyd l'occasion de revivre durant 2 heures leur univers musical. Vendredi 17 janvier, Wonder Beach, ouverture des portes à 18h, début du concert à 19h30. Billetterie sur ticket.nc. Pré-vente 2600 francs, sur place 3000 francs.
RRB,
Première radio d'information.
Excellent début de journée. La suite du programme, c'est avec le sport. On retrouve Nicolas Legrand.
Et du tennis à la une, je le disais, les qualifications à l'Open d'Australie ont très mal démarré pour les Français, Léo Fichou.
Ils étaient 6 sur les cours hier et ils ont malheureusement tous perdu. Hugo Blanchet, Harold Maillot, Hugo Grenier, Richard Gasquet, Jessica Poncher et Alice Tubelo se sont tous inclinés au premier tour des qualifications à l'Open d'Australie. Ça n'est pas passé non plus pour Elmer Moller, le Danois présent la semaine dernière au Challenger de Nouméa. Notez qu'aujourd'hui, on retrouvera 17 autres Français sur les cours à Melbourne.
Du football, alors pas de match en métropole, mais ça joue en Italie et en Espagne.
La finale de la Supercoupe d'Italie avec un derby milanais. D'un côté, l'Inter Milan, triple tenant du titre et vainqueur de l'Atalanta Bergame en demi-finale. Et puis de l'autre côté, l'AC Milan, tombeur de la Juventus de Turin samedi matin. La rencontre a démarré à 6h. C'est donc la mi-temps. Le score est d'un but à zéro pour l'Inter de Milan. En Espagne, c'est le Real Madrid qui affronte la Deportiva Minera, club de 4e division en 16e de finale de la Coupe du Roi. Les Madrilènes viennent de s'imposer 5 buts à 0 et sont donc qualifiés pour les 8e de finale.
Les sports mécaniques et Sébastien Loeb qui limitent la casse après l'étape de 48 heures.
Encore une fois, placé parmi les favoris du Dakar dans la catégorie auto, le Français n'est pas épargné par les problèmes mécaniques. Après la première des deux journées de cette étape de 48 heures, Sébastien Loeb accusait un retard de plus de 30 minutes suite à un problème de ventilateur. Mais ces dernières heures, il a comblé son retard et termine 7e de l'étape. Au général, Sébastien Loeb est donc 6e à 18 minutes du leader. Côté moto, c'est l'Australien Daniel Sanders qui continue de dominer la catégorie avec une nouvelle victoire.
Et puis de la voile, enfin, avec le Vendée Globe. Pas de changement en tête, c'est toujours Charlie Dalin qui mène la flotte.
Effectivement, après 57 jours de course, il domine toujours cette édition du Vendée Globe sur Massif Santé Prévoyance. Le skipper possède près de 100 000 nautiques d'avance sur Johan Richomme à bord de Paprec Arkea. Sébastien Simon est toujours 3e avec plus de 680 000 nautiques de retard sur le leader. Les deux hommes de tête ont passé l'équateur et naviguent désormais dans l'hémisphère nord. D'après les estimations, Charlie Dalin et Johan Richomme devraient arriver au Sable d'Olonne entre le 14 et le 15 janvier prochain.
Merci beaucoup Léo Fichou. On termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'est avec vous Thierry.
Oui Nicolas, ce matin le temps sera généralement sec et bien ensoleillé, cependant les nuages seront plus nombreux sur les pointes de la Grande Terre. Le nord-est, le sud des Loyautés et quelques Andées seront possibles sur l'extrême nord. L'Alizé, lui, pour ce matin orienté sud-est, compris entre 15 et 22, il sera moins fort sur la pointe nord autour des 10 à 15 de cet après-midi. Sur la côte ouest, le soleil dominera, même si quelques nuages déborderont du relief en fin de journée. Ces débordements seront plus importants sur la côte est. De plus, quelques cumulus circuleront sur l'extrême sud et au Loyautés. Le vent pour cet après-midi, toujours au sud-est. Cette fois, elle va se renforcer entre 15 et 20 nœuds, localement 20 à 25 nœuds, avec quelques rafales sur l'ouest et Vertueux. Il restera moins fort sur la pointe nord, toujours entre 10 et 15 nœuds. Peu d'évolution au niveau des températures. Elle reste proche des valeurs de saison, à s'échelonne entre 27 et 32 degrés.
Merci beaucoup Thierry, merci à tous d'avoir suivi ce journal.